il est 23h.
Parlons vrai. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous continuons cette émission où nous abordons comment améliorer notre sexualité, comment réussir à retrouver ou à trouver une sexualité harmonieuse suite à des abus ou des mauvaises expériences. Philippe Arlin est avec nous, vous êtes sexothérapeute et je rappelle en effet que vous pouvez consulter par Zoom hein, pour ceux qui éventuellement auraient envie de faire ce chemin avec vous. Nano, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour Philippe.
Bonjour Nano.
Alors c'est votre fille, hein, je crois, qui a subi des...
C'est ça, tout à fait. Ma fille a subi des attouchements de la part de son cousin il y a maintenant 2 ans. Donc il avait 1 an et demi de plus qu'elle. Elle est passée par toutes les phases, échec scolaire, scarification.
Elle avait quel âge quand ça arrive?
Elle avait 12 ans, il en avait 15 et demi.
Ah oui, donc il était
2 ans et demi
de plus, c'est pas...
Ouais,
13 ans. Ans, oui, d'accord, 2 ans. Ok.
Et donc voilà, elle allait super mal. Elle est passée de 14 de moyenne à tout juste 8. Voilà. Donc là, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais c'est pour le coup, la sexualité, j'ai l'impression qu'elle l'a retrouvée, mais un peu trop. Dans le sens où, en fait, elle a eu un petit copain. Elle a couché avec lui au bout de 6 mois, je crois. Elle avait que 14 ans. Et donc moi, j'étais étonné parce que c'était quelqu'un qui... Enfin, pour moi, je trouvais ça un peu jeune. On en a toujours parlé. Je suis très ouvert avec mes enfants. On parle de tout. Et une fois qu'elle s'est... Enfin,
elle vous en a parlé?
Qu'elle est couchée avec son petit copain?
Oui.
Non, on en a parlé à sa maman.
À sa mère, d'accord.
Elle a pas osé m'en parler. Et du coup, quand je l'ai su, parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai découvert, mais je l'ai découvert après qu'elle en ait parlé à sa mère. Et moi, elle m'a dit, mais papa, tu sais très bien que je n'allais pas t'en parler, c'est délicat.
Ce qui est vrai,
oui,
hein.
Je comprends
ça peut
totalement.
S'entendre.
Bien sûr. Non, mais je comprends totalement. Je lui ai juste dit que voilà, moi, je suis là pour écouter et je suis là pour lui parler et que si elle avait besoin de quoi que ce soit,
C'était à sa mère ou à vous qu'elle a raconté les abus de son cousin?
Non, c'est à la CPE en fait du collège.
D'accord.
Elle en a parlé à personne. Elle en a parlé à une copine. Ta copine lui a dit mais il faut que t'en parles, faut pas que tu restes comme ça. Et ensuite, on a été informé par le collège, quoi.
D'accord.
Donc, il y a eu toute une procédure. On a porté plainte. Il y a eu une procédure, mais comme c'était dans le cadre familial et qu'il n'y a pas eu pénétration, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de poursuite judiciaire. Voilà.
Okay.
Donc, ça a détraqué ma gamine et le gamin, il n'est même pas passé devant une psychologue. Il n'y a rien que tout ça.
Oui, alors nous on va pas, on connaît pas les détails, donc on va pas,
non,
va pas,
oui, bien sûr.
On va rien dire par rapport à ça. Hein. C'est toujours compliqué. Mais ce qui est important peut-être, Nano, c'est de pas non plus croire que sa vie est foutue. Je veux dire, c'est qu'il y ait eu une réaction contre-coup, c'est normal et c'est peut-être même bon signe, c'est-à-dire que parfois quand les jeunes filles suite à un abus s'enferment dans une sorte de solitude et d'isolement, et on vient d'entendre le témoignage de Marie-Lou, c'est parfois plus mauvais signe.
Oui, ça j'entends complètement. D'ailleurs au début c'était le cas.
Ouais, et c'est pour ça que tout à l'heure
plus trop de copains et là c'est bien différent.
Pour ça que tout à l'heure vous expliquiez que la sursexualité pouvait être une réponse traumatique, mais quelque part c'est une réponse du côté de la vie, pas du côté de la mort. Donc c'est une réponse au trauma, mais c'est une réponse de pulsion de vie. Ça veut pas dire qu'elle peut pas se mettre en danger dans sa sexualité. Je suis pas en train de dire ça, et puis je n'ai pas les éléments. Mais je rejoins Brigitte dans le sens où c'est une réaction suite au traumatisme, ça y a aucun doute, mais elle est quelque part peut-être moins dangereuse, moins pernicieuse que l'isolement et la solitude.
Et ce garçon avec qui elle a eu une relation, c'est un gentil garçon?
C'était un très gentil garçon.
Bon, donc tout ça est bon signe.
Il a couché avec elle, il l'a trompée le soir même. Ah. Ça, je l'ai appris après. Voilà, donc elle s'est scarifiée. Parce qu'en fait, on a passé la journée à la plage dimanche dernier. Et en fait, j'ai vu pour la première fois, en fait, tout ce qu'elle s'était fait infliger. Et là,
vous voyez, oui, parce que ça, c'est du côté du mortifère.
Du mortifère, ouais.
Vous voyez, c'est là.
Ouais. Ça, ouais.
Mais alors si, en effet, le soir même, il la trompe, c'est vrai que c'est un contre-coup pas terrible. On est bien d'accord.
On est d'accord.
Je pense qu'elle était dans un élan de guérison en allant voir ce garçon qui était, vous le dites vous-même, gentil, extrêmement gentil. Et elle s'en reprend un derrière la tête. Donc c'est là que l'accès à la sexualité... ça devient compliqué,
c'est ça,
quoi.
Elle a trouvé un copain. Je sais qu'elle a eu une relation sexuelle avec. Je me dis, mais la gosse, si tous les deux mois elle change de copain et qu'elle couche avec tout le monde, je me dis, est-ce que ça vient de là? Est-ce que
enfin,
moi, je suis paumé. Je me dis, bon, je préfère.
Elle a envie d'y croire.
Je coupe les veines, mais ouais, voilà, je pense aussi. Mais
elle a envie d'y croire, donc. Non, mais ça.
Et puis vous savez, il y a aussi parfois, mais encore une fois, là, on fait des interprétations. C'est pas elle qu'on a en ligne, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Il y a qu'elle qui pourrait répondre. Mais parfois, c'est aussi une manière de se réapproprier sa sexualité. Moi maintenant, c'est moi qui décide. Je choisis les hommes et je les prends. Et même si elle a une sexualité avec plusieurs hommes, c'est pas forcément. Enfin, c'est sa manière à elle de s'approprier sa propre sexualité. Vous voyez.
Ouais.
À condition qu'elle la subisse pas. Et ça, effectivement, on n'a pas les éléments.
Oui, non,
mais
ça, je pense que
voilà.
D'accord là-dessus. Elle se respecte. Enfin, je lui répète assez que c'est son choix et que c'est pas parce qu'elle tombe amoureuse qu'elle est obligée de coucher avec quelqu'un. Et
bah,
que,
je crois qu'elle
et
a.
Que les hommes, surtout à cet âge-là, ils pensent qu'à ça. Donc voilà. Après, moi, c'est délicat et très compliqué de.
Ça sera un long parcours, mais c'est. Vous pouvez être là, mais vous pouvez pas malheureusement faire beaucoup plus qu'être là et d'observer. Et ce chemin, elle est obligée. Elle ne peut le faire que toute seule. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être là comme des jalons sur son chemin, comme ça, si elle a besoin, elle pourra demander de l'aide et je pense qu'elle saura la trouver.
C'est chouette. Une psychologue qui est très bien, que j'ai trouvé parce que j'en ai passé plein. Et à chaque fois qu'elle est chez moi, tous les 15 jours, elle a une journée, enfin une heure par semaine avec une psychologue qui est vraiment géniale. Et j'ai l'impression que ça lui fait du bien.
Tant mieux.
Donc voilà, je continue et puis on verra ce que ça donnera.
Oui, de toute façon, vous pouvez pas la questionner, vous ne pouvez que lui avoir fait comprendre que vous étiez là et que vous êtes son père, que vous la respectez, que vous l'aimez et que vous souhaitez plus tard de rencontrer l'homme de sa vie avec
et puis
qui
déjà,
elle pourra être heureuse. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire de toute façon.
Et vous avez fait le plus important. Vous l'avez cru.
Ah bah j'ai en aucun cas de toute façon j'ai mis quand même en ce moment j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé comment elle avait fait, j'ai mis en doute aussi ses paroles au tout début parce que je me suis dit on n'est pas à l'abri que ma fille mente, c'était mon petit neveu, j'ai dit je veux en avoir le cœur net et puis effectivement quand j'ai vu les échanges de messages qu'elle s'était livrée à ses copains, qu'elle avait tout décrit, en fait, j'ai vu que c'était réel, quoi. Donc, mais j'ai quand même eu un petit doute au début. Je me suis dit, attends, avant de prêcher pour l'un ou pour l'autre, il faut vraiment que tu.
Non, mais au bout du compte, vous l'avez cru et vous êtes là pour elle.
Voilà.
Je pense qu'elle le sait. Elle a pu se confier à sa maman. Je pense que le maximum que vous pouvez faire pour elle aujourd'hui est fait. Et sachez, et c'est ça qui est très compliqué, c'est que se reconstruire, quand on parle de sexualité, bien sûr, c'est un travail personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Et on peut aider, on peut surtout être présent. Et c'est la personne qui, à travers des thérapies, à travers des choix de vie, à travers des rencontres, qui va petit à petit changer son regard sur elle, parce que c'est de ça dont il est question. Comment je me regarde, comment je vois mon corps, comment je vois ma sexualité et mes désirs.
Voilà. Et puis, il faut quand même rappeler que ces deux jeunes ados qui sont, je suis d'accord, elle a moins de 15 ans et que donc il y a abus, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec un adulte qui aurait.
Bien sûr. Non, bien sûr. Enfin, donc, il a juste attendu qu'elle dorme pour.
Oui, non, mais attendez, c'est un abus. Je suis pas en train
de. Il n'y a rien à défendre là.
Je suis pas en train de dire
d'accord.
que. Mais
non,
c'est
non,
juste
je
que.
J'entends.
Je comprends évidemment votre rôle de père et votre souffrance de savoir que votre fille a subi ça. Tout ça, on le comprend. Mais relativisons un tout petit peu aussi pour que vous soyez en paix avec tout ça. C'est juste ça que je voulais dire.
J'ai beaucoup de mal. J'entends.
Oui, mais on est toujours plus touché par la blessure d'un proche, même si elle est beaucoup moins grave que la blessure de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est normal. Mais en même temps, parfois, il faut un tout petit peu relativiser parce que c'est aussi votre peur qu'elle aille mal qui peut faire qu'elle va mal.
Ouais, ben après j'évite de lui en parler, de lui
Oui, mais si vous avez beau éviter de lui en parler, forcément, quand vous la revoyez, vous devez la regarder pour voir si elle va bien ou si elle va pas bien. Donc ne la scrutez pas trop, essayez d'oublier un petit peu et laissez-la grandir.
Vous savez que même en tant que père, vous avez le droit aussi de vous dire, là j'ai besoin d'aide parce que j'arrive pas à gérer ce qu'a subi ma fille. Et ça n'aurait rien de... Voilà. Hein.
C'est possible aussi.
Bien sûr, il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, mais il y a des victimes collatérales à tout ça.
Exactement, et c'est ça qu'on entend, et c'est pour ça que je me permettais de...
N'hésitez pas
à
consulter si vous vous sentez pas bien.
Exactement. Allez, on fait une petite pause et on continue dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Tout de suite.
Sud Radio Bordeaux.
106.
Sud Radio.
I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks. Your heart next summer, baby, I'll be waiting here. Call me when you all fucked up, my lover, I'll be there to lick your tears.
Minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Philippe Arlin est avec nous et nous évoquons les abus sur enfants. C'est un père également qui va prendre la parole. Bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Bonjour Marc.
Bonjour docteur.
On vous écoute.
Je vous ai écouté cet après-midi. Et je vous appelle parce que j'ai mon fils qui a l'âge de 8 ans. Était violé par son cousin qui devait avoir 14 ans. Et ça a été une destruction incroyable. Il a passé 2 ans à la maison, il a quitté l'école. Et il dormait la journée et il sortait la nuit. Donc, avec pas mal de sorties avec des copines et tout. et il a été marqué pendant des années, et aujourd'hui, je le vois à 42 ans, il prend 2, 3, 4 douches par jour, et donc ça va beaucoup mieux, maintenant il est marié, il a des enfants, mais j'ai du mal encore.
C'était il y a longtemps, donc c'était une époque où on parlait très peu de ça, j'imagine. Vous étiez...
Oui, c'était en 1991.
Vous l'avez su tout de suite ?
Non. Il s'est recroquevillé, il était fermé. Et puis un jour, il a avoué à sa maman, et qui me l'a dit. Et donc là, la colère m'est montée.
Quel âge il avait quand il peut enfin le dire ?
Oh, il avait 10 ans après, 18 ans.
18 ans, oui.
18 ans, oui. 10 ans après.
Alors, ouais. Déjà, Marc, ne vous sentez pas coupable de ne pas l'avoir su ni vu, parce qu'on n'en parlait pas à l'époque, et votre fils, vous avez vu qu'il allait mal, et puis vous ne saviez pas pourquoi, et vous n'aviez pas les éléments pour comprendre.
Mais j'ai quand même une responsabilité dans la mesure où en fin de compte, un petit peu avant que ça se passe, ils m'ont demandé d'aller voir leur cousin, puisque mon frère était divorcé.
Oui.
Et ils ont demandé d'aller voir leur cousin. Et donc, en allant voir les cousins, mon ex-belle-sœur m'a dit, bah, écoutez, laissez-les là, ils vont passer quelques jours ensemble. Voilà. Mais et vous, donc, ça s'est passé comme ça.
Mais vous n'êtes en aucun cas responsable, Marc.
Non, mais...
Il n'y a pas de mais, Marc, c'est important.
Vous les confiez, c'est quelque chose de complètement normal, ce que vous faites. Enfin, encore une fois, c'est le cousin qui, lui, ne se comporte pas de manière normale. Laisser des cousins passer du temps ensemble, c'est normal. On n'est quand même pas censé présupposer à l'avance qu'il y en a un qui va se comporter n'importe comment.
Mais si vous voulez, il y a un autre élément qui est important et que je dénonce aujourd'hui fortement. C'est que mon frère, que je ne vois plus depuis cette période-là, laissait traîner des cassettes vidéo pornographiques, et ses enfants de tout jeune regardaient ces cassettes pornographiques, quoi. Et donc je me demande si ça a pas joué dans cette histoire, quoi.
Alors ça, c'est possible, hein, tout est possible de toute façon, mais il faudrait questionner cet homme qui aujourd'hui est adulte, et savoir pourquoi il s'est senti le droit d'abuser de votre fils. Mais de toute façon, c'est en aucun cas votre responsabilité, d'abord parce que je vous rappelle qu'en 1991, on ne parlait pas de ça. Pourquoi aujourd'hui j'en parle régulièrement ? C'est pour que justement, un père qui aurait un gamin de 8 ans... pourrait plus facilement dire à son fils, ton corps t'appartient et ton cousin n'a rien le droit de te faire, et peut-être qu'à ce moment-là, le fils, si ça se passe, sera capable de le dire à son père en rentrant, vous voyez. Et si votre fils avait pu vous parler, peut-être qu'il s'en serait mieux remis plus vite, enfin, on n'en sait rien.
Ça, on n'est pas sûr, parce que moi, j'ai de nombreux exemples où on ne le dit pas, non pas parce qu'on ne va pas être entendu, mais on ne le dit pas parce que le dire, c'est le re-rendre vrai.
Oui, mais c'est... ça m'est arrivé, justement, de le dire, parce que Benoît, 10 ans après, ne voulait surtout pas en parler en famille, et donc, à l'époque, je lui ai dit, fais-moi une cassette vidéo. Et donc, je suis retourné chez mes parents avec mon frère et son ex-femme, écouter cette cassette, et quand j'ai vu le déni de mes parents, c'était à vomir.
Je sais. Mais Marc, c'est tout le problème de notre société. Tant qu'on n'arrivera pas à ce que ces choses-là soient dites, et c'est pour ça qu'on en parle dans cette émission, et merci de votre témoignage, parce qu'on entend votre douleur depuis tant d'années, parce que vous n'avez pas pu, je dis bien vous n'avez pas pu, je dis pas vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu protéger votre fils. Bon, et donc c'est une douleur qui vous ronge, et à un moment donné il faut que vous acceptiez de ne pas vous sentir responsable de quoi que ce soit, parce que vous n'y êtes strictement pour rien.
Oui, mais malheureusement j'en suis pas sûr, parce qu'elle ne l'a pas avoué, mais ma fille qui était un peu plus âgée, et donc je pense qu'elle a dû avoir des problèmes avec son cousin aussi, mais elle m'en a jamais parlé. Mais on le ressent.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? En quoi votre fille serait...
Parce qu'elle était souvent avec ses cousins, et qu'on a trouvé par moment les cousins dans la chambre qui étaient plutôt déshabillés, quoi. Et ma fille était avec eux, mais donc on n'a rien vu de spécifique.
Mais est-ce que votre fille, est-ce que votre fille a une vie amoureuse correcte, normale, ou enfin si on, je sais pas ce que c'est normal, mais
elle est mariée, elle a deux enfants.
Elle va bien.
Oui, elle va bien, elle a l'air d'aller bien.
Donc, a priori, il n'y a rien qui laisse à penser qu'elle aurait subi, elle aussi, des abus.
Et puis, elle sait ce qui s'est passé pour son frère, et elle sait à quel point vous avez été capable de l'entendre. Donc, je pense que si elle avait vécu quelque chose, je pense qu'elle aurait pu s'en ouvrir à vous. Sans difficulté, puisqu'elle avait un exemple là, et que en général, quand il se passe une chose comme ça, les victimes collatérales ont beaucoup plus de facilité à prendre la parole, parce que voilà, elles viennent compléter un témoignage, elles viennent renforcer un témoignage, elles savent qu'elles vont être entendues. Donc faites attention, parce que c'est en train de devenir votre traumatisme.
Oui, vous êtes ravagé par les remords, Marc. Vous êtes
Marc, ça vous faut faire aider ça. Ça vous bouffe de l'intérieur.
Et franchement, allez-y, pardon.
Ravagé par les remords, mais surtout en colère de voir que ce frère laissait des cassettes de cul à ses enfants et qui ont pu lui donner des idées.
Ça, vous avez trouvé le coupable, c'est la pornographie, ok. Mais ça n'enlève pas vos remords. Donc moi, je crois vraiment, parce que la colère, en plus, c'est très mauvais. Ouais, entre les remords et la colère qui vous ronge, vous allez finir par vous fabriquer une maladie. Hein. Donc il faut, je vous conseille vraiment d'aller vous libérer avec quelqu'un, parce que sinon vous allez traîner ça toute votre vie. Et
je l'ai traîné, hein, j'ai attrapé. Du colon, hein.
D'accord. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je voudrais pas qu'il y ait une récidive, raison de plus pour aller travailler ça. Je vous assure, ça va vous libérer et ça va faire du bien à votre fils aussi, parce que votre fils aussi doit souffrir de voir à quel point vous vous sentez coupable ou en tout cas responsable pour minimiser vos propos. Et votre fils, ça va lui faire du bien aussi, je vous assure.
Ok.
Vous avez le droit d'aller bien, il n'en ira que mieux.
Faites-moi plaisir, allez voir quelqu'un, faites ce travail.
Ouais, ça va vous mériter.
Vous méritez vraiment de vous libérer, parce que vous n'y êtes strictement pour rien, je vous assure.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Marc, merci à vous.
Au revoir.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.
Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+.
Sud Radio.
I won't stop.
16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Toujours en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute. Vous avez eu envie justement de faire cette émission, Philippe Arlin, parce que c'est un travail que vous faites régulièrement avec des personnes qui ont été abusées, parfois très jeunes, et vous les aidez à retrouver ou à découvrir plus exactement leur corps et leur sexualité. C'est un travail qui prend du temps, mais qui est possible. Et c'est ça que vous vouliez, enfin, c'est le message positif que vous vouliez donner en faisant cette émission.
Et puis je vois, à la lumière des appels qu'on vient d'avoir, à quel point on est sur une vraie problématique sur laquelle il n'y a pas tant de paroles que ça. On voit toutes les émotions qui se libèrent. Ça prouve à quel point tout ça, on ne peut pas le dire. Donc voilà, c'est important, et je pense que on pourra faire d'autres émissions sur le sujet, parce que c'est très complexe, et on le voit, et merci encore une fois à ceux qui nous ont appelés. On voit aussi les dommages collatéraux.
C'est ça aussi qui est important, et c'est pour ça que on n'avance pas sur cette question de, par exemple, de l'éducation à la sexualité. Moi, il y a 20 ans, j'étais très, oui, il faut donner. Et en fait, je suis même pas sûre, parce que des enfants qui ont été abusés, qui reçoivent des messages sur la sexualité à l'école, peuvent être encore à nouveau traumatisés. Donc tout ça est très complexe.
Tout ça doit être réfléchi, en tout cas.
Entre gens qui connaissent et qui savent.
Voilà. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais il s'agit aussi de permettre au bon moment de transmettre des informations qui ne le seront pas toujours faites correctement dans le cadre familial. Et malheureusement, on vient de le dire, le cadre familial est souvent le théâtre de ce genre d'abus. Donc on ne peut pas demander au cadre familial de transmettre un message et d'être à la fois responsable des abus.
Et ce que je voulais dire, suite au témoignage de Nano et de Marc, qui sont deux, et d'ailleurs on a Audrey aussi qui va parler de sa fille, c'est pas pour autant qu'il faut empêcher les enfants de jouer ensemble, de se rencontrer, parce que ça fait partie aussi de leur formation, de leur construction.
La vraie construction, elle est là.
Mais voilà. Oui, donc c'est pour ça que c'est tellement complexe, parce que normalement ça devrait pas se passer, et donc à surprotéger un enfant, c'est pas bon non plus. Donc
c'est comme si on disait, on ne laisse pas un enfant à son père.
Oui, absolument.
Bon, donc on voit bien qu'on est dans des dysfonctionnements. Donc il s'agit pas d'essayer d'adopter des attitudes soi-disant protectrices, puisque c'est le comportement qui est à contresens de toute logique. Donc il faut laisser vivre nos enfants, et il faut par contre faire en sorte d'être à leur écoute, mais on peut pas forcer ça non plus. Extrêmement complexe d'être parent, et face à la notion d'abus encore plus.
Voilà, il faut juste rappeler que le seul message qu'on peut donner à son enfant, c'est que son corps lui appartient, et que personne, absolument personne, n'a le droit de lui faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Ça, c'est un message simple à donner,
ouais,
à tout
et à répéter.
Voilà. Audrey, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe.
Bonjour Audrey.
Merci pour cette vraiment belle émission, parce qu'elle est importante aujourd'hui et elle le sera encore demain. Moi j'ai 62 ans, à l'âge de 6 ans j'ai subi des attouchements sexuels, et ensuite de 10 à 12 ans j'ai été violée par un ami très proche de mes parents.
Alors, là, encore une fois, je le souligne pour que les auditeurs comprennent bien. Et merci, hein, excusez-moi, j'avais confondu, je croyais que c'était votre fille, mais c'est vous. Ce qui est important, encore une fois, à comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous vous faites violer à partir de 10 ans, mais parce que déjà à 6 ans, on a abusé de vous. Et donc, il y a déjà chez vous, chez la petite fille, une sorte de dysfonctionnement, de dissociation. Et comme si votre corps était disponible pour quelqu'un d'autre.
C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé tout au long de ma vie pendant plusieurs années. C'est-à-dire cette dissociation, je l'ai bien identifiée plus tard, comme si mon corps en fait ne m'appartenait plus. Et donc moi, j'ai donné mon corps pendant des années.
Mais on vous l'a volé.
Où on me l'a volé, c'est joli, mais oui, c'est mieux.
Vous ne l'avez pas donné, on ne vous a jamais demandé votre avis, donc vous ne l'avez pas donné.
C'est tout à fait ça. En fait, je n'ai jamais dit non, donc j'ai subi, effectivement. Et en fait, ça a été, le point de départ de très jeune, de souffrance, d'une profonde souffrance, d'un manque de confiance en moi, de... de violence, enfin, d'automutilation, de profonde dépression. Enfin, j'ai fait des épisodes divers et variés.
Alors, ce que je vais dire aussi qui va aider ceux qui nous écoutent, quand on a 10-12 ans et que quelqu'un de proche, qu'a priori on aime bien, abuse de nous, tout d'un coup, on n'a plus confiance dans l'autre. Et comme c'est des âges où la confiance en soi s'apprend par rapport à la confiance qu'on a envers les autres, ça crée en effet un manque de confiance en soi et de fait une mauvaise estime de soi.
On ne peut plus se construire dans la confiance.
Vous l'avez compris, Audrey, puisque vous avez travaillé. Mais je crois que c'est important que ceux qui nous écoutent comprennent bien comment ça se passe.
Et en plus, c'est l'âge où se construit aussi la culpabilité.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en plus, il y a la culpabilité.
Tout à fait. Alors la culpabilité a été là pendant quelques années. Et l'auto-sabordage aussi. J'ai sabordé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai démarré une thérapie qui a duré 5 ans, bon, qui m'a profondément aidée. Ça a été le premier, le premier travail que j'ai fait. Et à l'âge de 40 ans, en fait, personne ne l'a su, même pas mon mari, hein, mon ex-mari aujourd'hui. Je ne pouvais pas en parler. Et j'ai trouvé très juste, c'était vrai, ce que vous disiez, Philippe, sur le fait que on ne peut pas en parler parce que on ne veut pas se retrouver dans cette situation, remettre la situation dans le
réel.
Voilà, exactement. Et en fait, donc il y a eu ce long parcours pour moi qui a démarré par cette thérapie, d'aller vraiment à la rencontre de moi, de comprendre beaucoup de choses. Mais ce qui a été déterminant pour moi, c'est la maladie. Parce que j'ai été malade, j'ai une sclérose en plaques, et il y a 2 ans, j'ai fait un cancer du sein. J'ai eu un cancer du sein, pardon.
Ah, mais votre
phrase... Le « j'ai fait » n'est pas forcément faux.
Oui, oui, oui.
Merci d'en rire.
Oui, j'en ris. Enfin, j'en ris, vous savez, parce que moi, dans ma vie, je pense que mon processus d'évolution et de transformation personnelle passe par toutes les souffrances-là, la maladie et la maladie, entre autres. Et donc là, c'est venu quand même me percuter de plein fouet. Donc la sclérose en plaques, ça fait maintenant 16 ans qu'elle m'accompagne, hein, c'est ma colocataire, mais je vais très bien avec ça, je vis très bien parce que je suis sur le chemin de la guérison. Ça, c'est moi qui me parle, hein, à moi-même. Le cancer du sein, c'était un petit peu plus violent quand même, mais j'en suis sortie, enfin,
Je peux me permettre une question, Audrey? C'est le sein droit ou le sein gauche?
Le sein droit.
Donc, vous voyez, comme c'est votre culpabilité qui vous a ravagé.
Oui, oui. Mais oui. Et alors, bon, tout ça, après, je l'ai compris. Je suis très fière de moi et je veux le dire à toutes les personnes qui entament un travail parce que c'est bien que comme ça qu'on peut aller vers qu'on peut aller mieux et qu'on peut aller vers le chemin de sa vie.
Audrey, je crois que l'image du tunnel est intéressante dans ce chemin-là parce qu'on est dans le tunnel, il fait noir, mais tout au bout on voit une petite lumière et plus on avance vers la sortie du tunnel, plus la lumière est là, et à un moment, en effet, la lumière est là. je crois que c'est cette image-là que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas encore trop avancé sur ce chemin.
Je suis tout à fait d'accord.
Et Philippe Arlin est notre soleil.
Ah, mais totalement, totalement. Mais de toute façon, vous savez, c'est pas de toute façon. Moi, je me vois, je me suis toujours, j'ai toujours aimé profondément la vie. Enfin, elle ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire, je me suis fait du mal, mais je n'ai pas été au point de faire une tentative de suicide ou des choses comme ça, même si j'y ai pensé. Mais par contre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'étais adolescente, c'est que la lecture et l'écriture, c'est ce qui m'a permis de traverser cette période, en fait. Et ensuite, bon, et après tout ce que j'ai mis en place, voilà pour ça. Et aujourd'hui, je suis une femme heureuse et épanouie, avec un compagnon, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Avec qui je vis enfin, parce que une sexualité, mais complètement, mais en fait, je découvre mon corps, je me réapproprie mon corps. Enfin, je l'avais déjà fait un peu auparavant, mais là, c'est juste le summum de mon enchantement. Je sais pas comment vous le dire, de mon enchantement de vie de femme. C'est juste merveilleux.
Parce que le corps, c'est la vie, mais dans le vrai sens du terme, notre corps, il respire la vie, il vit. Vibre la vie. Par contre, quand il est traumatisé, il s'empêche de vivre, il se rend malade, il se ferme. Et si on ne rétablit pas le dialogue avec lui, donc avec la vie, eh ben c'est tout qui meurt.
Exactement. Vous savez, j'en ai même des frissons de le dire et de vous entendre parce que en fait, là, c'est ça qui est merveilleux avec la vie, c'est que tout est possible et tout peut arriver à partir du moment où on décide de vouloir aller mieux. Parce que moi, si je l'ai décidé, quand même, hein, j'en avais ras-le-bol de ma vie, et puis de mes relations catastrophiques avec les hommes. Enfin,
oui, mais vous avez, voyez, quelle que soit, d'abord, vous avez un très bon élan vital. Ça c'est sûr, qui donc n'a pas pu être cassé trop par ce que vous avez subi. Mais ce que j'entends, on l'a entendu avec Gaël en début d'émission, Gaël il souffrait psychiquement, vous avez souffert dans votre corps. La souffrance, elle n'est pas normale. Et c'est la souffrance qui nous indique qu'il faut se faire aider parce qu'on est malade, que ce soit.
Et elle bloque la vie.
Exactement.
Oui, c'est ça. Et comme au plus profond de moi, en fait, je sentais cette force. Je l'ai toujours senti. Je savais pas comment la faire émerger, mais je l'ai toujours senti. Et là, quand elle a émergé, j'ai dit ça y est, c'est juste formidable. Quoi.
Et en plus, une des plus belles forces de vie, c'est évidemment la sexualité, puisque faut pas oublier que c'est ce qui transmet la vie. Il y a pas plus proche de la vie que l'élan sexuel, et se faire voler ça, c'est inacceptable.
On est bien d'accord. Merci beaucoup Audrey, merci vraiment. On fait une petite pause et on va conclure avec Isabelle qui nous rejoint.
Sud Radio Montauban.
104.7.
Sud Radio.
J'ai le vertige de nous. On n'a pas le même ticket pour cette vie de fou. Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai, je préfère tant trop au pas assez. Tu feras la différence, ton cœur prend des vacances, il danse avec les loups, résiste, tu feras la différence. C'est toi qui résiste, il rendra chaque coup. La photo fiche un peu de flou, un peu de nous. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout. Et sur mon piano, tu feras la différence, ton cœur prend des vacances, il danse avec les loups, résiste, tu feras la différence. Quand le cœur de l'enfant s'est arrêté, résiste.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et nous abordons les abus durant l'enfance. On va conclure avec vous, Isabelle. Merci de prendre la parole. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
Bonjour. Oui, alors je vous appelle parce que, comme les précédents témoins, moi aussi j'ai subi des attouchements de mon frère quand j'étais jeune. J'étais pré-ado, je crois, je suis pas sûre, hein, j'ai vers 9-10 ans, mon frère ayant 3 ans et demi plus que moi. Et ça m'est revenu vers 40 et quelques, après la séparation avec mon deuxième conjoint. Avec mon mari, le premier homme avec qui j'ai vécu, donc avec qui je me suis mariée, j'avais aucune envie, quoi, j'aimais pas ça, quoi, ça me. Après, c'est vrai que j'essayais parce que j'entendais autour de moi, c'est super, c'est génial, nanana. Et moi, non, quoi. Et après, j'ai rencontré le père de mes enfants. Oui, parce que j'ai eu 2 enfants, parce que je m'obligeais à faire en plus quelqu'un qui avait des pratiques un peu sadomaso, ce qui ne m'a pas arrangé du tout parce que ça a empiré les choses. Et donc je vais voir après mon premier divorce, j'ai commencé à consulter parce que je me disais c'est bizarre que j'ai aucune envie, ça me dégoûte, j'aime pas ça, enfin. Et ça fait plus de 30 ans que je vais voir, je consulte et je m'en sors pas. J'ai rencontré une troisième personne il y a une dizaine d'années. Ça n'a pas tenu non plus à cause de ça, parce que
si je comprends bien, Isabelle, vous savez qu'il s'est passé des choses avec votre frère qui avait 4 ans de plus que vous, mais vous ne savez pas exactement quoi, si j'entends bien. Hein. Donc il y a une.
Si, je me souviens de, je me souviens très bien, et ça m'a déclenché quelque chose.
C'est-à-dire
ça m'a déclenché quelque chose. J'aime pas le dire, mais un plaisir, quoi, une réaction physique.
D'accord. Vous avez eu de la jouissance avec votre frère quand vous étiez enfant, hein, c'est bien ça.
Ou c'est de l'évoquer qui a provoqué cette jouissance.
C'est pardon.
C'est à quel moment il y a eu ce plaisir à l'époque avec votre frère.
Mais
c'est toute la difficulté.
Bien sûr.
Vous savez, Isabelle, on m'a suffisamment critiqué parce que j'ai osé dire qu'on pouvait jouir lors d'un viol et votre frère vous violait quand il vous a touché. Et ça vous provoquait du plaisir et donc ça a provoqué beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Beaucoup d'incapacité à se sentir victime puisque vous avez eu du plaisir et une incapacité à en parler à qui que ce soit puisque vous avez eu du plaisir et c'est tout ça qui
amène
qui est lourd à porter, vous voyez.
Oui, alors ça m'est revenu à la mémoire, je vais certainement rejeter tout ça, je vous dis j'avais.
Après, bien sûr, sans doute qu'à un moment donné vous avez mis ça dans un placard, une couverture par-dessus pour pouvoir vous en sortir. Ça c'est.
Et puis il y a eu plein d'événements dans mon enfance, ma jeunesse, qui ont fait que mon père me disait méfie-toi ma fille, tous les hommes sont des cochons. J'ai vu mon grand-père se masturber, j'ai été touchée.
Ça aussi c'est un abus, Isabelle. Ça aussi c'est un abus de voir son grand-père se masturber.
Oui, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que ça m'a.
Vous êtes dans une famille incestueuse.
Ouais.
Et donc ça, vous avez passé votre enfance dans une famille où le sexe n'est pas à sa place. Donc tout ça est compliqué. Et quand vous acceptez des pratiques sadomasochistes avec un homme, c'est pour vous punir de tout ça.
Je sais pas.
Ce qui est important, j'ai
accepté au début parce que j'avais besoin d'affection, d'amour. J'avais vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui m'aime, j'avais besoin. Et j'ai accepté au début, puis après je voulais plus accepter, je refusais, c'est pour ça qu'il est parti.
Ce ce que je voulais vous dire, parce que je pense que c'est vraiment important que vous l'entendiez, le fait d'avoir pris du plaisir à cette époque-là fait que vous avez rejeté en bloc la sexualité et que vous avez bloqué en termes de désir pendant tous vos premiers couples, parce que c'était inacceptable, ça créait un divorce violent entre vous et votre corps. Vous étiez consciente de subir un abus et votre corps y prenait du plaisir. C'est juste inacceptable et cette sexualité est devenue inacceptable. La sexualité, c'est le plaisir qu'on va prendre aussi, c'est très important. Donc là, il était plus possible derrière d'accepter ça et même... Et je rejoins ce que dit Brigitte, c'est comme ça qu'on en vient à aller chercher dans sa sexualité une punition. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'y prendre du plaisir. Quelque part, il faudrait que ça fasse mal. Alors, on prendra peut-être intellectuellement du plaisir à avoir mal, mais on se met en position de se détester.
Je le dis rarement, parce que ça fait 30 ans que je consulte et que je m'en sors pas, mais je le dis rarement, mais c'est vrai que... dans les rapports avec le papa de mes enfants, je voulais plus de lumière parce qu'en fait je pleurais.
Et il s'en est jamais, rendu compte. Vous imaginez la souffrance que vous avez traversée. Quand on est avec un homme et qu'on fait l'amour et qu'on pleure et qu'il ne s'en rend pas compte, il vous prend à la fois votre corps et votre âme. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est moi, ce que je crois, si je peux me permettre, Isabelle, moi j'ai le droit de tout dire parce que je ne fais partie d'aucune chapelle. Je crois que pour l'instant, vous n'avez pas rencontré de bons thérapeutes parce que c'est trop compliqué pour vous de faire confiance à quelqu'un et d'oser dire tout ce que vous êtes en train de nous dire. Et alors, je vous remercie vraiment d'âme à âme que vous osiez me dire tout ce que vous venez de dire.
J'ai fini par le dire, hein, et aujourd'hui, j'arrive à tout dire, mais je m'en sors pas. Je suis même allée au centre de victimologie à Paris. Je suis allée plusieurs fois et on devait me recontacter et on m'a jamais recontacté.
Ils sont débordés. Il y a un problème sur tous ces centres, c'est que la bonne volonté est là, mais ils sont débordés.
Depuis le mois de septembre l'année dernière, on m'a pas rappelé.
Écoutez, donc, Isabelle.
Comment m'en sortir, en fait? Je ne sais pas.
Je crois quand même qu'il y a une chose importante que je peux vous dire, c'est que vous avez certainement très très bien mis les mots qu'il faut sur tout ce que vous avez vécu, mais il y a quand même, sur le plan émotionnel, c'est un peu trop douloureux pour que vous puissiez émotionnellement le revivre. Et c'est pour ça que je pense qu'il vous faut vraiment un travail avec quelqu'un qui soit dans une empathie extraordinaire pour que vous puissiez un tout petit peu lâcher et avoir la possibilité d'avoir accès à vos émotions les plus refoulées. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?
L'avant-dernière psychiatre que je voyais, elle n'était pas sexologue. Elle m'avait dit essayer de trouver quelqu'un qui un psychiatre ou un psychothérapeute qui est spécialisé en sexologie. J'ai eu du mal à trouver. J'ai eu vraiment du mal à trouver.
Je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de sexothérapeutes qui sont pas capables non plus d'entendre ce que vous avez à dire parce que beaucoup de sexothérapeutes ne sont pas forcément dans cette approche-là. C'est une approche très particulière que Philippe Arlin a parce que peut-être qu'il a un peu plus souffert que... Excusez-moi, hein, je parle de vous, mais j'en dirai pas plus, Philippe. Peut-être parce qu'il a un peu plus souffert et qu'il sait à quel point il faut écouter. Mais écouter d'émotion à émotion, j'oserais même dire d'âme à âme.
Voyez, de cœur à cœur, oui.
Ou de cœur à cœur. On peut pas juste écouter les paroles de quelqu'un. Il faut le laisser aller jusqu'au moment où c'est son cœur qui saigne.
Oui.
Voyez. Et est-ce que vous avez à confier, visiblement, c'est depuis votre prime enfance que vous avez vécu des choses, des abus sexuels, me semble-t-il. Et donc forcément, vous avez mis une chape de plomb là-dessus parce que sinon vous ne seriez plus en vie.
Oui.
Mais aujourd'hui, vous avez envie de vous
de
libérer,
sortir, de
vous
tout en... ça.
Et
j'aimerais bien m'en sortir et arriver à reconstruire une vie de couple, quoi. Enfin, rencontrer quelqu'un et enfin pouvoir avoir une vie de couple normale, quoi. C'est à la fois avoir de l'affection, de l'amour et arriver à une relation sexuelle normale.
C'est une demande légitime, Catherine. En tout cas, si vous le souhaitez, je serais ravie de vous aider.
Isabelle,
pardon.
Donc, bon, si vous voulez essayer de contacter Philippe Arlin, vous verrez bien si ça passe.
Et si comment je peux faire?
Bah, vous prenez mes coordonnées à l'accueil. Et voilà, et je peux consulter à distance, donc ça y a pas de souci. Mais je pense que là vraiment, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup, mais je pense que là il faut qu'on vous accompagne sur cette réconciliation.
Oui.
En tout cas, merci Isabelle. On a été touché par votre témoignage et on a été touché par tous les témoignages. C'est toujours difficile de conclure une émission de ce genre. Merci Philippe Arlin et bravo pour le travail que vous faites. Et je conçois que évidemment ce soit pas tous les jours facile non plus pour vous. Merci à tous.
Merci,
vous retrouvez C'est votre avenir avec Alexandre Delevanne. Et demain, on retrouve Philippe Arlin. On abordera un petit peu un sujet différent. On parlera notamment de la masturbation féminine, notamment après la ménopause, parce que souvent, justement, certaines femmes coupent leur désir et on expliquera pourquoi.
Sud Radio Monaco.
97.9.
Sud Radio.
Des formes dans les nuages, ou la mer dans les coquillages, se balader sur les chemins, plus penser au lendemain, peindre en couleur des nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter tard un concerto, un mot d'amour sur le frigo. Si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y'a ouvrir un bon Saint-Émilion, chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filant au mois d'août, allumer le feu, cheminer, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main se promener, et puis t'embrasser sur le nez, enfin revoir le printemps, et lui offrir un bouquet de fleurs, enfin laisser le temps au temps. J'ai midi à 14h. Si c'était ça, le bonheur, rien qu'un instant, un coup de cœur. Y'a tant de larmes, tant de malheurs. Laisse pas passer mes petits bonheurs. Juste un instant, un coup de cœur, et attends de là, tant de malheur, laisse pas passer, les petits bonheurs, une petite bulle, vite envolée, cheveux au vent, baiser volé, au fond la nuit, ce n'est que ça. Petit tour, et puis s'en va.
Ne bougez pas, dans un instant, retour de Brigitte Lahaye Sud Radio.
Le drame fait ma joie. Le drame fait ma joie. Si vous sifflez dans la rue, c'est pour un hurluberlu. Les gens vous regardent de travers.
sens car là il est pas clair. Pourtant ce qui nous illumine nous donne bien meilleure mine. C'est tout bête. C'est de mettre un peu de douceur dans nos âmes, des sourires sur nos larmes, lâcher sa tête. Le bonheur fait ma joie. Vous et moi, qu'est-ce qu'on veut? Être heureux, un point c'est tout. Le bonheur fait ma joie. Et si y'en a que ça gêne, pas de problème, chacun ses goûts. Le bonheur fait ma joie. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur fait ma joie. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur fait ma joie. Le bonheur fait ma joie. Les frissons sur la peau, ça vient pas du cerveau, mais de ce muscle si tendre. C'est tu es un peu plus bas qui vous tire vers le haut quand il bat. Le bonheur fait ma joie. Car vous et moi, qu'est-ce qu'on veut? Être heureux, un point c'est tout. Le bonheur fait ma joie. Et si en acceptant que ça vous chante, venez avec nous.